On Air, un projet radiophonique d'enregistrement et de diffusion de pièces théâtrales portées par le théâtre Les Airs. Diffusion sur les ondes de RDIWA et à réécouter en podcast sur le site théâtre-les-airs.com. Charlotte, Gilbert, Marguerite, Émilie et Christian, accompagnés pour la mise en voix par Yann Boudot, vous présentent Combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès, enregistré en janvier 2022. Bonne écoute! Combat de nègres et de chiens, troisième partie.
Tableau 12. Cal, un fusil à la main, couvert de boue noirâtre. Orne surgissant de l'obscurité.
Cal, patron?
Il rit, court vers lui.
Ah, patron, que je suis content de te voir.
D'où tu sors?
De la merde, patron.
Bon Dieu, ne m'approche pas, tu vas me faire dégueuler.
C'est toi, patron, qui m'a dit de me débrouiller pour le retrouver.
Et alors, tu l'as trouvé?
Rien, patron, rien.
Il pleure.
Et c'est pour rien que tu t'es couvert de merde?
Il rit.
Oh, bon Dieu, l'imbécile!
Ne te moque pas de moi, patron. C'était ton idée et moi, je dois toujours me débrouiller tout seul. C'est ton idée à toi et je vais choper le tétanos à cause de toi.
On rentre. Tu es complètement rond.
Non, patron, je veux le retrouver. Il faut que je le retrouve.
Le retrouver? Trop tard, imbécile. Il vogue maintenant dans on va savoir quelle rivière. Et il va pleuvoir. Trop tard.
Il se dirige vers la camionnette.
Les banquettes doivent être dans un foutu état. Bon Dieu, ce que ça pue!
Cal l'attrapant par le col.
C'est toi le chef, patron. C'est toi le boss, chef. Tu dois me dire maintenant ce que je dois faire. Accroche-moi bien, moi je ne sais pas nager, je me noie, vieux. Et puis fais gaffe, con, ne te moque pas de moi.
Méfie-toi de tes nerfs, ne t'excite pas. Cal, allons, tu sais bien que je ne me moque pas de toi, pas du tout.
Cal le lâche.
Qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Il va falloir te désinfecter maintenant.
Regarde comme je transpire, bordel, regarde cela, ça ne veut pas sécher. Tu n'as pas une bière?
Il pleure.
Tu n'as pas un verre de lait? Je voudrais boire du lait, vieux.
Calme-toi. On rentre dans la cité. Tu dois te laver et il va pleuvoir.
Alors je peux le descendre maintenant, hein? Je peux le descendre?
Ne parle pas si fort, bon Dieu.
Orne.
Quoi?
Est-ce que je suis un salaud, vieux?
Qu'est-ce que tu racontes?
Cal pleure.
Cal, mon petit.
Tout à coup, j'ai vu Toubab en face de moi qui me regardait de ses petits yeux penseurs. « Toubab, mon petit chien, je dis, qu'y as-tu arrivé? À quoi penses-tu? » Il grogne, hérisse le poil, longe les goûts doucement. « Je le suis. Toubab, mon petit chien, qu'as-tu à réfléchir? As-tu senti quelqu'un ?» Il hérisse le poil, aboie un petit coup et saute dans les goûts. Je me dis, il a senti quelqu'un? Je le suis. Mais je n'ai rien trouvé, patron. Que la merde, patron. Pourtant, je l'avais bien jeté là, mais il a dû filer. Je ne peux pas faire tous les cours d'eau de la région et fouiller le lac pour retrouver ce cadavre, patron. Et maintenant, Toubab a filé aussi. Je suis de nouveau seule et je suis plein de merde, Orne.
Quoi?
Pourquoi je suis punie, vieux? Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Tu as fait ce que tu devais faire.
Alors je peux le descendre, vieux? C'est ça que je dois faire maintenant?
Bon Dieu, ne gueule pas. Tu veux donc qu'on t'entende jusqu'au village?
Cal armant son fusil.
Ce coin-là est parfait. Personne pour rien voir, personne pour réclamer ou pour venir pleurer. Ici, tu disparais dans les fougères, mon salaud. Ici, ta peau ne vaut pas 100 balles. Maintenant, je me sens regonflé, je me sens chaud, vieux.
Il se met à flairer.
Donne-moi ce fusil.
Il tente de lui arracher. Cal résiste.
Fais gaffe, vieux, gaffe. Au karaté, peut-être que je suis pas bon. Au couteau, peut-être que je suis pas bon. Mais au fusil, je suis terrible. Terrible, terrible. Même au revolver ou à la mitraillette, tu ne vaux pas 100 balles devant ça.
Tu veux avoir tout le village sur le dos? Tu veux avoir à t'expliquer avec la police? Tu veux continuer tes conneries? Est-ce que tu as confiance en moi? Tu as confiance ou tu n'as pas confiance? Alors laisse-moi faire. Ne te laisse pas avoir par les nerfs, mon gars. Il faut régler les choses à froid. Et avant qu'il ne fasse jour, l'affaire sera réglée, crois-moi. Je n'aime pas le sang, mon gars, pas du tout. Je n'ai jamais pu m'y habituer, jamais. Cela me fout hors de moi. Je lui parlerai encore une fois, et cette fois, je l'aurai, crois-moi. J'ai mes petits moyens secrets à moi. À quoi cela servirait? Tout le temps que j'ai passé en Afrique, si ce n'était pas pour les connaître mieux que toi, pour les connaître sur le bout des doigts. Pour avoir mes moyens à moi, contre lesquels ils ne peuvent rien, hein ? À quoi cela servirait de faire couler du sang si les choses peuvent s'arranger toutes seules ?
Cal flairant.
Odeur de femme, odeur de nègre, odeur de fougère qui réclame. Il est là, patron, tu ne sens pas ?
Arrête de faire le mariole.
Tu n'entends pas, patron ?
Aboiement au loin.
C'est lui ? Oui, c'est lui. Toubab, viens, petit chien, viens. Ne pars plus jamais. Viens que je te caresse, ma petite chérie, que je te baise, petite saloperie.
Il pleure.
Je l'aime, Horn. Horn, pourquoi je suis punie ? Pourquoi je suis un salaud ?
Tu n'es pas un salaud.
Mais toi, tu es un con, un foutu con, patron. Bien sûr que si, que j'en suis un. D'ailleurs, je veux, j'ai décidé d'en être un. Je suis un homme d'action, moi. Toi, tu parles, tu ne sais que parler. Et qu'est-ce que tu feras, toi, hein, s'il ne t'écoute pas ? Hein ? Si tes petits moyens secrets ne marchent pas, hein ? Ils ne marcheront pas, bordel. Et alors, heureusement que je suis un salaud, moi. Heureusement qu'il y en a pour l'action. Pour l'action, les foutus cons ne servent à rien. Moi, je flingue un boubou s'il me crache dessus. Et j'ai raison, moi, bordel. Et c'est bien grâce à moi qu'il ne te crache pas dessus. Pas à cause de ce que tu parles et que tu sois un con. Moi, je flingue s'il crache et tu es bien content. Parce qu'à 2 cm, c'était sur notre pied. 10 cm plus haut, c'était le pantalon. Et un petit peu plus haut, on l'avait dans la gueule. Qu'est-ce que tu faisais alors, toi, si je n'avais rien fait ? Tu parlais avec son crachat en plein milieu de la gueule ? Foutu con. Car il crache tout le temps, ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais comme si tu ne le voyais pas. Ils ouvrent un œil et crachent. Ouvre un autre œil et crache, crache en marchant, en mangeant, en buvant, assis, couché, debout, accroupi, entre chaque bouchée, entre chaque gorgée, à chaque minute du jour. Ça finit par couvrir le sable du chantier et des pistes. Ça pénètre à l'intérieur, cela fait de la boue. Et quand on marche dessus, nos pauvres bottes enfoncent. Or, de quoi est composé un crachat ? Qui le sait ? De liquide sûrement, comme le corps humain, 90%. Mais de quoi d'autre encore ? 10 autres % de quoi ? Qui pourra me le dire ? Toi ? Crachats de boubou sont menaces pour nous. Si on réunissait tous les crachats de tous les nègres, de toutes les tribus, de toute l'Afrique d'une seule journée, creusant des puits obligés d'y cracher, des canaux, des digues, des écluses, des barrages, des aqueducs, si on réunissait les ruisseaux de tous les crachats crachés par la race noire sur tout le continent et crachés contre nous, on en arriverait à couvrir les terres émergées de la planète entière d'une mer de menaces pour nous. Il ne resterait plus rien que les mers d'eau salée, les mers de crachats mêlés, les nègres seuls surnageant sur leur propre élément. Cela, moi, je ne laisserai pas faire. Moi, je suis pour l'action. Moi, je suis un homme. Quand tu auras fini de parler...
Laisse-moi faire en Dieu, premier.
Quand tu en auras fini, Horn.
Si je ne parvenais pas à le convaincre...
Oh, patron.
Mais que tu sois calme d'abord. Que tu arrives à calmer tes nerfs de femme, bon Dieu.
Oh, patron.
Vois-tu, Cal, mon petit ?
Ta gueule !
Aboiement au loin. Cal part comme une flèche.
Cal, reviens ! C'est un ordre ! Reviens !
Bruit du camion qui démarre. Horn reste. Tableau 13. Craquement de branches. Horn allume sa lampe torche.
Éteignez.
Dans l'ombre.
Albori, venez, montrez-vous.
Éteignez votre lampe.
Horn rit.
Comme vous êtes nerveux.
Il éteint un instant sa lampe.
Vous en avez une voix, à faire peur.
Montrez ce que vous cachez derrière le dos.
Derrière mon dos, hein ? Fusil ou revolver ? Devinez le calibre.
Il sort de derrière son dos 2 bouteilles de whisky.
Voilà ce que je cache. Vous doutez encore de mes intentions ?
Il rit. Rallume la lampe.
Détendez-vous. Je tenais à vous les faire goûter. Ce sont mes meilleurs. Reconnaissez que tous les pas, Monsieur Albury, c'est moi qui les ai faits. N'oubliez pas cela quand nous récapitulerons. Vous ne voulez pas venir à moi, alors moi je viens à vous. Et croyez-moi, c'est par amitié pure. Que voulez-vous ? Vous avez réussi à m'inquiéter, je veux dire, à m'intéresser.
Il montre le whisky.
Voilà qui va vous forcer à vous déboutonner un peu devant moi. J'ai oublié les verres. J'espère que vous n'êtes pas snob. D'ailleurs, le whisky est bien meilleur à la bouteille. Cela évite qu'il ne s'évente. C'est à cela qu'on reconnaît un buveur. Je veux vous apprendre à boire. Vous n'avez pas la conscience tranquille, monsieur Albury ?
Pourquoi ?
Je ne sais pas, moi. Vous tournez sans arrêt le regard dans tous les sens.
L'autre blanc est en train de me chercher. Il a un fusil, lui.
Je sais, je sais, je sais. Pourquoi croyez-vous que je suis là ? Avec moi aussi, il ne fera rien. Tiens, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à boire à la même bouteille que moi.
Albury boit.
Bravo, vous n'êtes pas snob, en tous les cas.
Orne boit.
Laissez-lui le temps de bien descendre. C'est au bout de quelque temps qu'il livre son secret.
Ils boivent.
Ainsi, j'ai appris que vous étiez un as du karaté. Est-ce que vous êtes vraiment un as ?
Cela dépend de ce que veut dire un as.
Vous ne voulez rien me dire. Mais je veux bien apprendre un ou deux coups, un jour que nous aurons le temps. Je préfère quand même vous dire tout de suite que je me méfie des techniques orientales. La bonne vieille boxe, est-ce que vous avez déjà fait de la bonne vieille boxe traditionnelle ?
Traditionnelle, non.
Eh bien alors, comment comptez-vous vous défendre ? Je vous apprendrai un ou deux coups un de ces jours. J'étais très bon. J'étais même un combattant en professionnel, étant jeune. Et c'est un art qu'on n'oublie jamais. Soyez donc calme, ne vous inquiétez pas. Vous êtes ici chez moi, et pour moi, l'hospitalité, c'est la règle sacrée. D'ailleurs, vous êtes ici pratiquement en territoire français. Vous n'avez donc rien à craindre.
Il passe d'une bouteille à l'autre.
J'ai hâte de connaître où va votre préférence. Cela en dit long sur le caractère.
Ils boivent.
Celui-là est nettement, nettement pointu. Vous sentez comme il est pointu ? Alors que l'autre, c'est très net, il roule. C'est des sortes de billes, des milliers de billes métalliques, non ? Comment vous le sentez, vous ? Ah, la pointe de celui-là ne fait aucun doute. Avec, si on prend le temps de les saisir, des arêtes tout du long, qui frottent légèrement dans la bouche, non ? Eh bien...
Je ne sens ni les billes, ni la pointe, ni les arêtes.
Ah non ? Pourtant, c'est indiscutable. Essayez encore. Vous avez peut-être peur d'être saoul, peut-être.
Je m'arrêterai avant.
Très bien. Bien. Excellent. Bravo.
Pourquoi êtes-vous venu ici ?
Pour vous voir.
Pourquoi me voir ?
Vous regarder, bavarder, perdre mon temps, par amitié pure, pour des tas d'autres raisons encore. Ma compagnie vous pèse ? Vous m'aviez pourtant dit que vous vous réjouissiez d'apprendre des choses, non ?
Je n'ai rien à apprendre de vous.
Bravo, c'est vrai. Je me doutais bien que vous vous moquiez de moi.
La seule chose que j'ai apprise de vous, malgré vous, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans votre tête et dans toutes vos poches pour ranger tous vos mensonges. On finit par les voir.
Bravo. Mais ceci, par contre, n'est pas vrai. Essayez, demandez-moi n'importe quoi pour vous prouver que je ne vous trompe pas.
Tenez-moi une arme.
Ah, sauf une arme ? Ah non ! Vous devenez tous fous avec vos pétoires.
Il en a une, lui.
Tant pis pour lui. Assez de cet imbécile. Il finira en tôle et ce sera tant mieux. Qu'on me débarrasse de lui et je serai content. Autant vous dire, Albury, c'est lui la cause de tous mes ennuis. Débarrassez-moi de lui et je ne bougerai pas. Autant me dire aussi, Albury, quelles sont donc les intentions de vos supérieurs ?
Je n'ai pas de supérieurs.
Mais alors, pourquoi prétendez-vous être de la police secrète ?
Doumic Zara.
Oh, vous préférez continuer à jouer à cache-cache ? Comme vous voudrez.
Albury crache par terre.
Ne vous mettez pas en colère pour cela.
Comment un homme pourrait se reconnaître dans toutes vos paroles et vos trahisons ?
Quand je vous dis, Albury, faites-en ce que vous voulez, je ne le couvre plus. Ce n'est pas un mensonge, croyez-moi. Je ne ruse pas, moi.
C'est une trahison.
Trahison ? Trahir quoi ? De quoi parlez-vous donc ?
Votre frère.
Ah non, s'il vous plaît, pas de ces mots africains. Ce que fait cet homme n'est pas mon affaire. Sa vie ne me touche pas le moins du monde.
Pourtant, vous êtes de la même race, non ? De la même langue, de la même tribu, non ?
De la même tribu, si vous voulez, oui.
Tous les deux être des maîtres ici, non ? Maître d'ouvrir et de fermer les chantiers sans être puni pour cela ? Maître de prendre et de renvoyer les ouvriers ? Maître d'arrêter et de faire partir les machines ? Propriétaires tous les deux des camions et des machines ? Des cases de briques et de l'électricité, de tout ici, tous les deux, non ?
Oui, si vous voulez. Pour vous, en gros, eh bien, oui. Et alors ?
Pourquoi alors avez-vous peur du mot « frère » ?
Parce que, Albury, en 20 ans, le monde a changé. Et ce qui a changé dans le monde, c'est la différence qu'il y a entre lui et moi, entre un fou assassin, déchaîné, avide, et un homme qui est venu ici avec un tout autre esprit.
Je ne sais pas ce que c'est que votre esprit.
Albury, j'étais moi-même ouvrier, croyez-moi. Je ne suis pas un maître par nature, vous savez. Lorsque je suis venu ici, je savais ce que c'était d'être un ouvrier. Et c'est pourquoi j'ai toujours traité mes ouvriers, blancs ou noirs, sans distinction, comme l'ouvrier que j'ai été a été traité. L'esprit dont je parle, c'est cela. Savoir que si l'on traite l'ouvrier comme une bête, il se vengera comme une bête. Voilà la différence. Maintenant, pour le reste, vous n'allez pas me reprocher à moi le fait que l'ouvrier soit malheureux ici comme ailleurs. C'est sa condition. Je n'y peux fichtre rien. J'ai été payée pour la connaître. Par hasard, est-ce que vous croyez qu'un seul ouvrier au monde peut dire « je suis heureux » ? D'ailleurs, croyez-vous qu'un seul homme au monde dira jamais « je suis heureux » ?
Qu'importe aux ouvriers les sentiments des maîtres et aux noirs les sentiments des blancs.
Vous êtes un coriace. Albury, je m'en rends bien compte. Je ne suis pas un homme pour vous. Quoi que je dise, quelque geste que je fasse, quelque idée que j'ai, même si je vous montre mon cœur, vous ne voyez en moi qu'un blanc et un patron. Quelle importance, finalement. Cela ne nous empêche pas de boire ensemble.
Ils boivent.
C'est étrange. Je vous sens toujours à côté, comme s'il y avait quelqu'un derrière vous. Vous êtes si distrait. Non, non, ne me dites rien, je ne veux rien savoir. Buvez. Êtes-vous déjà sous ?
Non.
Très bien, bravo. J'ai une faveur à vous demander, Albury. Ne lui dites rien. Ne lui dites pas ce qui vous amène. Ne lui parlez pas de mort ou de ces choses dégueulasses. Ne cherchez pas à l'endoctriner. Ne lui dites rien qui pourrait la faire fuir. J'espère que ça n'est pas déjà fait. Je n'aurais pas dû peut-être l'amener ici, je sais bien, mais cela m'a toqué, c'est ainsi. Je sais bien que c'est une folie, mais réellement cela m'a toqué d'un coup. Et maintenant, non, il ne faut pas lui faire peur. J'ai besoin d'elle, besoin de la sentir dans les parages. Je la connais très peu, je ne sais pas quels sont ses désirs, je la laisse libre. Il me suffit que je la voie dans les parages et je ne demande rien d'autre. Ne la faites pas fuir.
Il rit.
Que voulez-vous, Albury ? Je ne veux pas terminer tout seul comme un vieil imbécile.
Il boit.
J'ai vu beaucoup de morts dans ma vie. Beaucoup. Et beaucoup leurs yeux aux morts. Or, chaque fois que je vois les yeux d'un mort, je me dis qu'il faut se payer vite, vite, tout ce qu'on a envie de voir. Et que l'argent doit être dépensé vite, vite à cela. Sinon, que voulez-vous que l'on fasse de son argent ? Je n'ai pas de famille, moi.
Ils boivent.
Cela descend bien, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas l'air de vous méfier de l'alcool, c'est bien. Vous n'êtes pas encore sous ? Vous êtes un dur. Montrez.
Il lui prend la main gauche.
Pourquoi vous laissez-vous pousser l'ongle aussi long ? Et juste celui-là ?
Il contemple l'ongle du petit doigt.
C'est une affaire religieuse ? C'est un secret ? Depuis une heure, cet ongle m'inquiète.
Il le tâte.
Ce doit être une arme terrible, si l'on sait s'en servir. Un sacré petit poignard. Cela vous sert peut-être en amour ? Ah, mon pauvre Albouri, si vous ne vous méfiez pas non plus des femmes, vous êtes perdu.
Il le regarde.
Mais vous vous taisez. Vous gardez tous vos petits secrets. Je suis sûre qu'au fond, et depuis le début, vous vous moquez de moi.
Il sort brusquement une liasse de billets de sa poche et la tend à Albouri.
Voilà, mon gars, je vous l'avais promis. Il y a 500 $. C'est le plus que je puisse faire.
Vous m'aviez promis le corps de Nouafia.
Le corps, oui, ce sacré corps. On ne va pas en reparler, non ? Nous, Sophia, c'est cela ? Et il avait un nom secret, m'aviez-vous dit. Quel était ce nom encore ?
C'est le même pour nous tous.
Me voilà bien avancée. Quel était-il ?
Je vous le dis, le même pour nous tous. Il ne se prononce pas autrement. Il est secret.
Vous êtes trop obscur pour moi. J'aime les choses claires. Prenez. Allons.
Il tend la liasse.
Ce n'est pas ce que j'attends de vous.
N'exagérons pas, monsieur. Un ouvrier est mort, d'accord. C'est grave, d'accord. Je ne veux pas du tout minimiser la chose, pas du tout. Mais c'est une chose qui arrive n'importe où, à tout moment. Croyez-vous qu'en France, les ouvriers ne meurent pas ? C'est grave, mais c'est normal. C'est la part du travail. Ça n'aurait pas été lui, ça aurait été un autre. Qu'est-ce que vous croyez ? Le travail ici est dangereux. Tous, on prend des risques. D'ailleurs, ils ne sont pas excessifs. On est resté dans les proportions, on n'a pas dépassé la limite. Soyons clairs, n'est-ce pas ? Le travail coûte ce qu'il coûte, que voulez-vous ? N'importe quelle société lui sacrifie une part d'elle-même, n'importe quel homme lui sacrifie une part de lui-même. Vous verrez. Croyez-vous que je n'ai rien sacrifié, moi ? C'est dans l'ordre du monde. Cela n'empêche pas le monde de continuer, hein ? Ce n'est pas vous qui allez empêcher la terre de tourner, hein ? Ne soyez pas naïf, mon bon Albouri. Soyez triste. Cela, je peux le comprendre, mais pas naïf.
Il tend l'argent.
Voilà, tenez.
Entre Léon. Tableau 14. Éclair de plus en plus fréquent.
Léon, je vous cherchais. Il va pleuvoir et vous ne savez pas ce que pluie veut dire ici. J'en ai pour un moment et puis nous rentrerons.
À Albouri.
Finalement, vous êtes trop compliqué pour moi, Albouri. Vos pensées sont entremêlées, obscures, indéchiffrables, comme votre brousse, comme votre Afrique tout entière. Je me demande pourquoi je l'ai tant aimé. Je me demande pourquoi j'ai tellement voulu vous sauver. C'est à croire que tout le monde ici devient insensé.
Léon à Horn.
Pourquoi le faites-vous souffrir ?
Horn la regarde.
Donnez-lui ce qu'il vous demande.
Léon.
Il rit.
Bon Dieu, comme tout cela devient pompeux.
À Albouri.
Sachez donc que le corps de cet ouvrier est introuvable. Il vogue quelque part, cela doit faire un bout de temps qu'il est bouffé par les poissons et les éperviers. Renoncez une bonne fois à le récupérer. Il va pleuvoir, Léon, venez.
Léon s'approche d'Albouri.
Donnez-moi une arme.
Non, bon Dieu, non. Ce ne sera pas une tuerie ici. Soyons raisonnables. Léon, venez. Albouri, prends cet argent et file avant qu'il ne soit trop tard.
Si j'ai pour toujours perdu Nouafia, alors j'aurai la mort de son meurtrier.
La foudre, le tonnerre, mon vieux. Règle tes comptes avec le ciel et fous le camp. Fous le camp, file cette fois. Léon, ici.
Tableau 15.
Acceptez, Albouri, acceptez. Il vous propose même de l'argent. Gentiment, de l'argent, que vous faut-il de plus ? Lui est venu pour arranger les choses, c'est certain. Eh bien, il faut arranger les choses, puisque c'est possible. À quoi ça sert de vouloir se battre pour quelque chose qui n'a plus aucun sens quand on vient gentiment vous proposer d'arranger tout, et de l'argent en plus ? C'est l'autre qui est un fou, mais pour cela, on le sait maintenant. On n'a plus qu'à faire bien attention à... Et enfin, à nous trois, on arrivera à l'empêcher d'embêter le monde. C'est sûr de faire du mal et alors tout marchera comme sur des roulettes. Lui, ce n'est pas du tout la même chose. Il est venu pour gentiment parler, mais vous, vous dites non, vous serrez les poings, vous restez têtu. Oh ! Je n'ai jamais vu si têtu. Et vous croyez comme cela obtenir quelque chose ? Mon Dieu, mais il ne sait pas du tout s'y prendre, celui-là, pas du tout. Alors que moi, je saurais bien comment m'y prendre si vous me laissiez faire. Sûrement pas en serrant les poings, non ? Sûrement pas en prenant des airs de guerre et têtu. Aïe, aïe, aïe. Car ce n'est pas la guerre que je veux vivre, non. Ce n'est pas me battre que je veux, ni trembler tout le temps, ni être malheureuse. Moi, c'est vivre tout court que je veux, tranquillement, dans une petite maison, où vous voudrez, tranquille. Oh, je veux bien être pauvre, ça la met bien égale, et chercher de l'eau très loin, et cueillir aux arbres, et tout le Saint-Frusquin. Je veux bien vivre d'absolument rien du tout, mais non pas tuer, me battre, et m'entêter, à serrer les poings, oh non. Pourquoi être si dur? Ou alors je ne vaux pas un mort déjà à moitié bouffé. Je ne voudrais pas cela. Albouri, est-ce donc parce que j'ai le malheur d'être blanche? Pourtant, vous ne pouvez pas vous tromper sur moi, Albouri. Je ne suis pas vraiment une blanche, non. En moi, je suis déjà tant habituée à être ce qu'il ne faut pas être. Il ne me coûte rien d'être nègre par-dessus tout cela. Si c'est pour cela, Albouri, ma blancheur, j'ai déjà craché dessus depuis longtemps. Je l'ai jetée, je n'en veux pas. Alors si vous aussi, vous ne vouliez plus de moi? Oh, noir, couleur de tous mes rêves, couleur de mon amour. Je le jure, lorsque tu rentreras chez toi, j'irai avec toi. Quand je te verrai dire ma maison, je dirai ma maison. À tes frères, je dirai frère. À ta mère, mère. Ton village sera le mien, ta langue sera la mienne. Ta terre sera ma terre. Et jusque dans ton sommeil, je le jure, jusque dans ta mort, je te suivrai encore.
Orne de loin.
Vous voyez bien qu'il ne veut pas de vous. Il ne vous écoute même pas.
Des malfadés de goût sacbi.
Il crache au visage de Léone.
Aidez-moi, Orne.
Quoi? Vous vous conduisez sous mon nez, sans la moindre dignité, avec ce type, et je devrais vous y aider encore? Croyez-vous que vous pouvez me traiter comme de la merde et que je ne réagirai pas? Croyez-vous que je suis juste bon à payer et c'est tout? Et qu'on peut me traiter comme de la merde? Demain, bon Dieu, oui, vous rentrez à Paris.
Se tournant vers Albouri.
Quant à toi, je pourrais bien te faire abattre comme un vulgaire rôdeur. Tu te crois donc ici chez toi? Tu me prends pour de la merde? Tu nous prends tous pour de la merde. Tu as bien de la chance que je n'aime pas verser du putain de sang. Mais tu peux quitter tes grands airs. Je te le dis, tu peux te mordre les doigts. Tu as cru pouvoir comme cela embobiner une femme française sous mon nez, dans une propriété française, sans que maintenant tu aies en payé les conséquences? File! Je te laisse t'arranger avec ceux de ton village, quand ils sauront que tu as tenté d'embobiner une blanche en nous faisant chanter. Je te laisse te débrouiller pour vider les lieux sans rencontrer l'autre, qui n'attend que cela pour te faire la peau. File! Disparais! Et si on te revoit dans la cité, tu seras abattu par la police s'il le faut. Comme un vulgaire voleur. Moi, je me lave les mains de ta putain de peau.
Albouri a disparu. La pluie se met à tomber. Tableau 16.
Et vous, je vous prie, n'ayez pas votre crise maintenant. Il ne manquait plus que cela. Ah non, 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 je ne peux pas sentir les larmes. Cela me fout hors de moi. Arrêtez-moi cela, je vous prie. Montrez un peu de dignité. Tiens, il me viendra encore une idée comme celle-là, oui, une fameuse idée, l'imbécile. Arrêtez, s'il vous plaît, un peu de dignité. Tout s'entend ici, le moindre bruit s'entend à des kilomètres. On a l'air fin, je vous le jure. Quelle riche image vous donnez de nous, si vous vous voyiez. Chut, allons, débrouillez-vous pour vous retenir, mais chut. Arrêtez-vous de respirer quelque temps. Faites ce que vous voulez, buvez un grand coup d'une traite, comme pour le hockey. Cela doit marcher aussi. Mais arrêtez-moi cela. Tenez, buvez un coup.
Il lance la bouteille. Léone boit.
Encore, ne lésinez pas. Ça redonnera un peu de dignité, car tout cela en manque, oui. Que fait donc Cal et sa putain de camionnette? Cal, bon Dieu, s'il vous plaît, vous... Si vous croyez que le type n'est pas resté dans les parages à nous regarder, ah, en se frottant les mains de voir cette crise lamentable et indigne, oui. Quelle image vous donnez des Blancs? Quelle fameuse idée j'ai eue, bon Dieu! Léone, je vous supplie, je ne supporte pas les crises.
Il marche en tous sens.
Je me sens très mal cette fois. Oui, je vais mal, très mal.
Il s'arrête brusquement auprès de Léone.
S'il vous plaît, et si on partait d'ici, hein? Que je lâche le chantier tout de suite, est-ce que...
Il lui prend la main.
Ne pleurez plus, ne me laissez pas seule. J'ai assez d'argent pour partir sans préavis. Et alors Cal prendrait la relève, et alors dans 2 jours on serait en France ou ailleurs, en Suisse ou en Italie, au lac de Bolsena ou au lac de Constance, ou comme vous voudrez. J'ai assez d'argent, largement. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Léon, avec vous, je... Dites-moi, d'accord, ne me laissez pas. Je vais trop mal maintenant. Léol, je veux me marier avec vous. C'est ce qu'on voulait, non? Dites, d'accord.
Léon s'est redressé. Contre une pierre, elle brise la bouteille de whisky rapidement, sans un cri, en regardant l'ombre où a disparu Albouri avec un éclat de verre. Elle grave sur ses joues profondément les marques scarifiées, semblables au signe tribal sur le visage d'Albouri.
Cal, bon Dieu, Cal, cela saigne. Cela n'a aucun sens, Cal. Il y a du sang partout.
Léon s'évanouit. Orne court en criant vers la lumière des phares qui approchent. Tableau 17. À la cité, près de la table, Cal nettoie son fusil.
Dans la lumière, je ne peux rien, rien. Les gardes me verraient faire et alors ils pourraient témoigner. Ils pourraient courir à la police et je ne veux pas avoir affaire avec la police. Ou ils pourraient courir au village et je ne veux pas avoir avec le village. Avec toute cette lumière, je ne peux rien.
Les gardes ne feront rien. Ils sont trop contents d'avoir ce travail. Ils s'accrochent, crois-moi. Et pourquoi courraient-ils à la police ou au village pour perdre leur place? Ils ne bougeront pas, ils ne verront rien, ils n'entendront rien.
Ils l'ont déjà laissé entrer une fois, et puis cette fois-ci encore. Là, derrière l'arbre, il est là de nouveau. Je l'entends respirer. Les gardes, je m'en méfie.
Ils ne l'ont pas vu entrer, ou ils se sont endormis. D'ailleurs, on ne les entend plus. Ils se sont endormis. Ils ne bougeront pas.
Endormis? Tu ne vois pas clair, vieux? Je les vois, moi. Ils sont tournés vers nous, ils nous regardent. Ils ont leurs yeux à demi fermés, mais je vois bien qu'ils ne dorment pas et qu'ils nous regardent. En voilà un qui vient de chasser un moustique avec le bras. Celui-là se gratte la jambe. Là, un qui vient de cracher par terre. Avec toute cette lumière, je ne peux absolument rien faire.
Il faudrait que le générateur ait une sorte de panne.
Il faudrait, oui. Il le faut absolument, sinon je ne peux rien faire.
Non, le mieux, c'est d'attendre le matin. On enverra un appel radio et la camionnette à la ville. Ah non, allons, je vais mettre en place les mortiers.
Les quoi?
Les porte-lances, les pots à feu, tout le matériel pour mon feu d'artifice.
Mais le jour va se lever, Orne. D'ailleurs, elle est enfermée dans le bungalow, elle ne voudra pas sortir pour regarder, elle n'a même pas voulu se laisser soigner. Si elle chope le tétanos, on l'aura sur les bras. Quelle drôle de femme, et maintenant elle a ses marques pour toute la vie. Pourtant, elle était mignonne. C'est drôle. Et toi? Mais qui voudrais-tu qu'il le regarde, vieux ton feu d'artifice?
Moi, je le regarderai. C'est pour moi que je le fais. Je l'ai acheté pour moi.
Et qu'est-ce que je dois faire, moi? Restons ensemble, vieux. Il faut le niquer pour de bon, maintenant.
Je te fais confiance. Sois prudent, et c'est tout.
Sauf que je suis à froid, maintenant. Alors, je n'ai plus d'idée sur ce qu'il faut faire, moi.
Une peau noire ressemble à une peau noire, non? Le village réclame un corps. Il faut leur en donner un. On n'aura pas de paix tant qu'on ne leur a pas donné un corps. Si on attend encore, le jour où ils nous enverront 2 types pour réclamer, on ne pourra plus rien faire.
Mais ils verront bien que ce n'est pas l'ouvrier. C'est qu'ils se reconnaissent entre eux.
On peut ne pas le reconnaître. Si on ne peut pas reconnaître la gueule, qui peut dire c'est lui ou c'est un autre? La gueule, c'est à ça et à cela seulement qu'on reconnaît.
Sans fusil, moi, je ne peux rien faire. Je n'aime pas me battre et ils sont tous trop forts, ces salauds, avec leur karaté. Et avec un fusil vieux, on verra bien la marque, un trou dans la gueule, voilà la marque qu'ils verront. Et alors, on a tous la police sur le dos.
Donc, le mieux, c'est d'attendre le matin. Faisons tout dans les règles, mon gars. C'est ce qu'il y a de mieux. On parlera à la police et on arrangera au mieux dans les règles.
Orne, Orne, je l'entends là, qui respire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Je n'ai plus d'idée, moi. Ne me lâche pas.
Un camion peut lui passer dessus. Qui peut dire c'est un coup de fusil? Ou c'est un coup de la foudre? Ou c'est un camion, hein? Un coup de fusil ne ressemble plus à rien si un camion a passé dessus après.
Finalement, je vais me coucher, j'ai une tête comme ça.
Imbécile.
Ne me traite pas d'imbécile, Orne, plus jamais d'imbécile.
Calme, mon petit, tes nerfs. Ce que je veux dire, c'est que celui-là, si on le laisse rentrer au village, ils reviendront à deux ou trois et va te débrouiller avec deux ou trois. Tandis que, sinon, on fait porter demain son corps au village et on fait dire « C'est le gars que la foudre a touché hier sur le chantier et voyez, un camion lui a passé dessus. » Après, tout rentre dans l'ordre.
Mais ils nous demanderont des comptes pour celui-là, alors ils demanderont où il est passé, celui-là.
Celui-là n'est pas un ouvrier. On n'a aucun compte à rendre pour celui-là. Jamais vu. On ne sait rien. Alors,
à froid, comme cela, c'est dur.
Quand ils seront plusieurs et que les gardes, après, laisseront passer tout le monde, qu'est-ce qu'on fera alors, hein?
Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Dis-le-moi, vieux.
Il vaut mieux exterminer le renard que de faire des sermons à la poule.
Oui, patron.
D'ailleurs, je l'ai ramolli. Il n'est plus dangereux, le gars. Il tient à peine debout. Il a bu comme un trou.
Oui, patron.
Soigneusement, au milieu de la gueule.
Oui.
Et après, le camion, soigneusement.
Oui.
Et prudence, prudence, prudence.
Oui, patron, oui, patron.
Calme, mon petit, j'ai décidé, vois-tu, de ne même pas rester jusqu'à la fin du chantier.
Patron ?
Oui, mon petit, c'est comme cela, j'en ai marre, vois-tu. L'Afrique, je n'y comprends plus rien. Il faut d'autres méthodes, sans doute, mais moi, je n'y comprends plus rien. Alors, quand il te faudra, toi, liquider les affaires, calme, bon Dieu, écoute-moi bien. Ne cache rien à la direction. Ne fais pas tes conneries, raconte tout. Mets-les de ton côté. Ils peuvent tout comprendre, tout. Ils peuvent tout arranger, tout. La police, même, tu ne la connais pas. Qu'ils s'adressent à l'entreprise. La direction de ton entreprise, c'est tout ce qui doit exister pour toi. Retiens toujours cela.
Oui, patron.
Dans 2 heures, le jour sera levé. Je vais commencer mon feu.
Et la femme, vieux ?
Elle part tout à l'heure avec la camionnette. Je ne veux plus entendre parler de cela. Elle n'a jamais existé. On est tout seul. Salut.
Orne.
Quoi ?
Il y a trop de lumière, beaucoup trop de lumière.
Orne lève les yeux vers le mirador et les gardes immobiles. Tableau 18. Devant la porte entrouverte du bungalow. Orne parlant vers l'intérieur du bungalow.
Dans quelques heures, une camionnette partira à la ville porter des documents. Elle klaxonnera. Soyez prête. C'est un excellent chauffeur. En attendant, il serait dangereux de sortir. Enfermez-vous dans votre chambre et ne bougez pas. Quoi que vous entendiez, jusqu'au klaxon de la camionnette. Quand vous partirez, je serai déjà au travail. Alors donc, salut. Voyez un médecin à votre arrivée. Je souhaite qu'il vous répare tout cela. Oui, peut-être qu'un bon médecin pourra vous rendre à nouveau présentable et réparer cela. À votre retour, aussi, je vous demande de ne pas trop parler. Pensez ce que vous voulez, mais ne faites pas de mal à l'entreprise. Elle vous a malgré tout donné l'hospitalité, ne l'oubliez pas. Ne lui nuisez pas. Elle n'est en rien responsable de ce qui vous est arrivé. Cela, je vous le demande comme une faveur. Je lui ai tout donné, moi, tout. Elle est tout pour moi, tout. Pensez de moi ce que vous voulez, mais à elle, ne lui nuisez pas, car alors ce serait de ma faute, oui, de ma propre faute. C'est une faveur que vous pouvez bien me faire, car c'est avec un billet d'avion payé par mon argent que vous rentrez. Vous avez accepté le billet d'aller. Maintenant, il vous faut bien accepter le retour. Donc, eh bien, salut. Je ne vous verrai plus on ne se verra plus. Non.
Il sort. Léon apparaît sur le pas de la porte, ses valises à la main. Son visage saigne encore. Brusquement, la lumière s'éteint quelques secondes, puis on entend le générateur qui se remet en marche. Cal apparaît. Léon se cache le visage derrière son bras et demeure ainsi pendant tout le temps qu'il la regarde. Tableau 19. La lumière a encore quelques ratés qui interrompent de temps à autre Cal.
Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, bébé, c'est le générateur. Ces gros engins ne sont pas faciles à manier. On dirait bien qu'il va y avoir une panne. Ce sont des choses qui arrivent. Horn doit être en train de s'en occuper, ne t'inquiète pas.
Il s'approche d'elle.
Je me suis lavée.
Il flaire.
Je crois que je ne sens plus. J'ai mis de l'aftershave. Est-ce que je sens encore ? Pauvre bébé. Retrouver du travail maintenant, ce ne sera pas facile, hein, j'imagine bien. Surtout à Paris, la vache. Il doit neiger à Paris maintenant, non ? T'as bien raison de rentrer, d'ailleurs, je le savais. Je savais d'ailleurs qu'il finirait par te dégoûter. Moi, je ne comprends toujours pas ce que tu lui as trouvé à Horn. Quand je t'ai vu de loin débarquer, rouge, mais rouge, avec cette élégance, ce chic des Parisiennes, ce côté dernier cri, si fragile, que je te vois maintenant. Horn, quel con ! On ne doit pas montrer les caves et les égouts aux petits-enfants, non. Il aurait dû savoir cela. On doit les laisser jouer sur la terrasse et dans le jardin et leur interdire l'entrée des caves. Pourtant, quand même, oui, bébé, à nous qui travaillons ici, toi, tu nous as apporté un peu d'humanité. Finalement, ouais, je le comprends, vieille Horn, vieux rêveur.
Il lui prend la main.
En tous les cas, moi, je suis content de t'avoir connu, bébé. Je suis content que tu sois venu. Sûrement que tu me juges mal, bébé, hein. Sûrement, je ne me fais pas d'idée. Mais qu'est-ce que cela me fait, ton jugement, puisque tu rentres à Paris qu'on ne se verra plus ? Sûrement que tu parleras mal de moi à tes amis pendant quelque temps, et sûrement que tant que tu te souviendras de moi, ce sera en mal. Et à la fin, tu ne t'en souviendras plus du tout. Mais en tous les cas, moi, j'étais content d'échanger avec toi.
Il lui baise la main.
Maintenant, quand est-ce qu'on se reverra ? Quand est-ce qu'on reverra une femme ? Une vraie femme comme toi, bébé ? S'amuser avec une femme, quand ? Quand reverrai-je une femme au fond de ce trou ? Je perds ma vie au fond de ce trou. Je perds ce qui, ailleurs, serait les meilleures années. À être seule, toujours seule, on finit par ne plus savoir son âge. Alors de te voir, je me suis souvenue du mien. Il va falloir que je l'oublie de nouveau. Et qu'est-ce que je suis ici ? Qu'est-ce que je continue à être ? Rien. Tout cela pour l'argent, bébé. L'argent nous prend tout, même le souvenir de notre âge. Regarde cela.
Il montre ses mains.
Est-ce qu'on dira encore des mains d'hommes jeunes ? Est-ce que tu as déjà vu des mains d'ingénieurs en France ? Mais sans argent, à quoi ça nous servirait d'être jeunes, hein ? Finalement, je me demande pourquoi, ouais, pourquoi je vis.
La lumière s'éteint, définitivement cette fois.
Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une panne. Ne bouge pas. Moi, je dois m'en aller. Adieu, bébé. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas.
Tableau 20. Dernière vision d'un lointain enclos. Une première gerbe lumineuse explose silencieusement et brièvement sur le ciel au-dessus des bougainvillées. Éclat bleu d'un canon de fusil. Bruit mat d'une course, pieds nus sur la pierre. Râle de chien, lueur de lampe, torche, petit air sifflé. Bruit d'un fusil qu'on arme, souffle frais du vent. L'horizon se couvre d'un immense soleil de couleur qui retombe avec un bruit doux, étouffé, en flamèche sur la cité. Soudain, la voix d'Albouri. Du noir jaillit un appel, guerrier et secret, qui tourne, porté par le vent, et s'élève du massif d'arbres jusqu'aux barbelés des barbelés au mirador. Éclairé aux lueurs intermittentes du feu d'artifice, accompagné de détonations sourdes, l'approche de Cal vers la silhouette immobile d'Albouri. Cal pointe son fusil haut vers la tête. La sueur coule sur son front et ses joues. Ses yeux sont injectés de sang. Alors s'établit au cœur des périodes noires entre les explosions un dialogue inintelligible entre Albouri et les hauteurs de tous côtés. Conversation tranquille, indifférente, questions et réponses brèves, rire, langage indéchiffrable qui résonne et s'amplifie, tourbillonne le long des barbelés et de haut en bas, emplit l'espace tout entier, règne sur l'obscurité et résonne encore sur toute la cité pétrifiée dans une ultime série d'étincelles et de soleils qui explosent. Cal est d'abord touché au bras. Il lâche son fusil. En haut d'un mirador, un garde abaisse son arbre. D'un autre côté, un autre garde lève la sienne. Cal est touché au ventre, puis à la tête. Il tombe. Albouri a disparu. Noir. Le jour se lève doucement. Cri d'épervier dans le ciel. À la surface d'égouts à ciel ouvert, des bouteilles de whisky vides se heurtent. Klaxonne d'une camionnette. Les fleurs de Bougainvillé balancent. Toutes reflètent l'aube. Léon très loin, et l'on entend à peine sa voix couverte par les bruits du jour. Elle se penche vers le chauffeur.
Haben Sie eine Sicherheitsnadel? Mein Kleid geht auf. Mein Gott, wenn Sie keine bis ich haben, muss ich ganz nackt.
Elle rit. Elle monte dans la camionnette.
Toute nue. Nach Paris zurück.
La camionnette s'éloigne. Auprès du cadavre de Cal. Sa tête éclatée surmontée d'un cadavre d'un chiot qui montre les dents. Horn ramasse le fusil tombé à terre, s'éponge le front et lève les yeux vers les miradors déserts. Bernard-Marie Coltès naît dans une famille bourgeoise de Metz le 9 avril 1948. Troisième et dernier fils d'un militaire de carrière, il voit très peu son père durant son enfance. Supportant mal l'éloignement de sa famille, il vit difficilement sa scolarité au collège Saint-Clément de Metz où il est pensionnaire. Il y reçoit un enseignement jésuite fondé sur l'apport de la rhétorique, la volonté de considérer le dialogue comme une vraie argumentation et le désir de faire apparaître un sens caché, ce qui influencera nécessairement son théâtre. Il effectue son premier voyage au Canada à 18 ans, voyage qui le marque profondément. Il s'initie à la musique de Bach avec Louis Théry, organiste titulaire à l'église Saint-Martin de Metz. Alors que rien ne le destine au théâtre, il assiste, à l'âge de 20 ans, à une représentation de Médée, interprétée par Maria Cazarest, à la Comédie de l'Est, mise en scène par Georges Lavelli et adaptée par Jean Vautier. C'est le coup de foudre. Désirant devenir acteur, il tente le concours d'entrée du Théâtre national de Strasbourg pour les sections Jeu et Régie, mais il est refusé. Cela n'empêche pas de travailler sur une adaptation théâtrale d'enfance de Maxime Gorki, qui devient sa première pièce, intitulée « Les amertumes ». Il l'envoie à Hubert Gignoux, alors directeur du Théâtre national de Strasbourg, qui, impressionné par son talent, lui propose d'intégrer l'école. Il y entre en section régie. Cependant, il y reste très peu de temps, préférant monter sa propre compagnie en tant qu'auteur et metteur en scène. C'est la naissance du théâtre du Quai. En 1970, Coltès écrit « L'héritage » que Maria Cazares lit pour la radio. Ses premières pièces expérimentales ne connaissent pas de succès et il les reniera lorsqu'il évoluera vers un style plus narratif à la fin des années 1970. Notamment à partir de Combats de nègres et de chiens. Entre un passage au Parti communiste français de 1975 à 1978 et de nombreux voyages en Amérique latine, en Afrique et aux États-Unis, à New York, source importante d'inspiration pour lui, il crée de nombreuses pièces. Parmi celles-ci se trouve notamment le long monologue « La nuit juste avant les forêts » qu'il monte en off au Festival d'Avignon en 1977. Son théâtre, en rupture avec celui de la génération précédente, met en scène la perpétuelle et vaine tentative de communication entre les hommes. Au moment où le théâtre a les yeux rivés sur les grands classiques, l'univers de Koldès fait donc l'effet d'une bombe. Il inscrit ses personnages dans une réalité très contemporaine. Un chantier de blancs en Afrique, les docks malfamés de New York, une province en pleine guerre d'Algérie. Il parle de racisme, d'exclusion et d'homosexualité par détournement et scrute l'humain à travers les rapports de force, la violence familiale, la quête perpétuelle du désir et de l'identité. Le dramaturge, passionné par Shakespeare, Marivaux, Tchekhov, est également un fervent lecteur de Dostoïevski, dont il adapte « Crime et châtiment » avec « Procès ivre » en 1971, et des pensées de Blaise Pascal. Déjà, avec les amertumes, son travail était qualifié de formaliste. Koldès expliquait la raison profonde de son travail formel par le fait que le personnage psychologique ne l'intéressait pas, pas plus d'ailleurs que le personnage raisonnable. Il ajoutait qu'il redoutait presque autant Stanislavski que Brecht. À de nombreux écarts, on le considère comme l'héritier du théâtre de l'après-guerre d'Antonin Artaud. À la fin des années 1970, Koldès rencontre le metteur en scène Patrice Chéreau. C'est le début d'une longue collaboration entre les deux hommes qui ont le même âge, s'admirent et se complètent. À l'exception de Roberto Zucco, Patrice Chéreau créera toutes ses pièces de 1983 à la mort de Koldès en 1989. En 1984, Jérôme Lindon, fondateur des éditions de Minuit, publie « La fuite à cheval très loin de la ville ». Par la suite, il éditera tous les textes de Koldès. Bernard-Marie Koldès meurt le 15 avril 1989 des suites du sida, après un dernier voyage en Amérique latine et au Portugal.
Vous venez d'écouter la troisième partie de la pièce « Combat de nègres et de chiens » de Bernard-Marie Koldès, enregistrée dans le cadre du projet On Air. Réécoute et pièce complète, accessible bientôt sur le site internet théâtre-les-r.com.